Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre ce lundi son allié Donald Trump aux États-Unis pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine, prévenant que Moscou allait réviser sa position dans les négociations sur la résolution du conflit. Volodymyr Zelensky dément l'information. Et à suivre la page sport spéciale Cannes avec Mounir Kamouri. Nous l'avons évoqué dans les titres, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontre ce lundi son allié Donald Trump aux États-Unis pour des discussions centrées sur l'avenir de la trêve à Gaza au moment où le passage à sa deuxième phase semble dans l'impasse. Et la branche armée du Hamas a confirmé sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole qui avait été annoncée par Israël en août. Elle a réaffirmé que le groupe ne renoncera pas à ses armes. Le Liban a annoncé son intention d'acheter du gaz naturel à l'Égypte afin de réduire sa dépendance au fioul dans un pays confronté à des coupures d'électricité chroniques. Dans le reste de l'actualité internationale, en Turquie, 3 policiers ont été d'une opération contre le groupe État islamique à Yalova, dans le nord-ouest du pays, selon le ministre turc de l'Intérieur. Et toujours en Turquie, le président somalien effectuera ce mardi une visite dans le pays, un proche allié, 4 jours après la reconnaissance par Israël. Dans le reste de l'actualité, la Russie accuse l'Ukraine d'avoir lancé pendant la nuit 91 drones contre la résidence de Vladimir Poutine, prévenant que Moscou allait réviser sa position dans les négociations sur la résolution du conflit en Ukraine. Volodymyr Zelensky dément et parle de mensonges. En Espagne, une avalanche a fait 3 morts et 1 blessée, une femme retrouvée en état d'hypothermie dans les Pyrénées aroganaises, dans le nord-est du pays, a annoncé la garde civile. En France, Brigitte Bardot sera inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez, où son entourage prépare ses obsèques. Et enfin, le corps d'un homme hébergé dans un foyer, probablement décédé à cause du froid, a ouvert ce dimanche en fin d'après-midi sur la voie publique dans le nord-ouest de Paris, où le plan grand froid a été activé par la préfecture. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Et à partir de ce lundi, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la limite autorisée ne seront plus une simple contravention, ils deviennent un délit. Le gouvernement parle d'une réponse judiciaire plus ferme avec à la clé des peines de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 € et une inscription au casier judiciaire. Et on fait le point avec vous, Nadia Bencher.
Les très grands excès de vitesse changent de statut en France. Dès le 29 décembre, rouler à plus de 50 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée sera considéré comme un délit et non plus comme une contravention, annonce de la sécurité routière qui salue une réponse judiciaire plus ferme. Cette évolution figure dans un décret publié mercredi au Journal officiel en application de la loi du 9 juillet 2025. Le texte porte en création de l'homicide routier vise à lutter contre la violence routière. Jusqu'ici, ce type d'infraction relevait d'une contravention de 5e classe, la plus élevée sauf en cas de récidive. Une sanction jugée désormais plus adaptée à la gravité des faits et à leur recrudescence. Concrètement, ces très grands excès de vitesse pourront être punis de 3 mois d'emprisonnement et jusqu'à 3 750 € d'amende, avec inscription au casier judiciaire. S'y ajoutent des mesures administratives et complémentaires, confiscation du véhicule, suspension du permis pendant 3 ans, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pendant 5 ans ou plus et obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Pour la sécurité routière, rouler très au-delà des limites constitue un comportement particulièrement dangereux, susceptible d'entraîner de lourds dommages en cas d'accident. Elle rappelle que la vitesse excessive réduit le temps de réaction, allonge la distance de freinage, diminue le contrôle du véhicule et augmente les forces d'impact lors d'une collision. En 2024, 63 217 excès de vitesse supérieure ou égaux à 50 km/h au-dessus de la limite autorisée ont été relevés, soit une hausse de 69% par rapport à 2017.
Notre second dossier du jour dans l'actualité internationale, l'Union européenne s'est dotée de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour encadrer le numérique et cela provoque de fortes tensions avec Washington. L'administration Trump dénonce des actes de censure et a sanctionné 5 personnalités européennes engagées contre la désinformation, dont l'ancien commissaire Thierry Breton. En toile de fond, des sanctions financières très lourdes infligées à des géants de la tech comme Google ou X. Mais que contient exactement cet arsenal européen? À quoi sert-il et comment s'applique-t-il concrètement? Les explications de Farah Khalek, docteur en intelligence artificielle.
Du coup, on parle tout simplement d'un ensemble de lois qui couvrent toute la chaîne du numérique. Donc aujourd'hui, on a le RGPD qui protège les données personnelles, le DSA qui régule les contenus et les risques sociétaux. On a le DMA aussi qui rééquilibre la concurrence. Et puis on a aussi l'AI Act qui lui encadre les usages de l'IA. Donc l'objectif, c'est pas de freiner la tech, mais c'est d'imposer en fait des règles claires comme dans d'autres secteurs stratégiques.
Alors pourquoi cet arsenal irrite autant Washington selon vous ?
Parce qu'il remet en cause un modèle très libéral, je dirais, historiquement dominant aux États-Unis. Donc l'Union européenne impose des obligations contraignantes à des entreprises majoritairement américaines avec des sanctions réelles. Mais c'est aussi un enjeu de souveraineté normative. C'est que l'Europe impose ses règles à des acteurs globaux, tout simplement.
Alors, deux amendes sont citées comme très mal vécues aux États-Unis, 2,95 milliards d'euros contre Google en septembre et 120 millions contre X en décembre. Qu'est-ce que ces cas illustrent au-delà des montants ?
Il montre que les règles européennes ne sont plus théoriques. La Commission est capable d'enquêter, de prouver des manquements, mais aussi de sanctionner des géants. Donc je dirais que c'est un signal fort. La taille ou la puissance économique ne place plus au-dessus du droit.
Le DSA que vous avez cité tout à l'heure vise notamment la désinformation et la haine en ligne. Concrètement, qu'impose-t-il aux plateformes ?
Alors le DSA impose une obligation de moyens renforcés. Donc les plateformes doivent modérer plus efficacement, expliquer leurs décisions, signaler les risques systémiques et puis coopérer avec les autorités. Donc ce n'est pas une censure, mais plus une responsabilisation.
Pour les très grandes plateformes, Farah Khalek, le texte prévoit des règles supplémentaires dont l'analyse des risques et l'accès aux algorithmes pour le régulateur et des chercheurs agréés. Comment ça se traduit dans la pratique ?
Les très grandes plateformes doivent analyser leurs risques, donc tels que la désinformation, la manipulation ou les atteintes aux droits fondamentaux, par exemple. Donc elles doivent aussi ouvrir une partie de leur algorithme aux régulateurs et à des chercheurs agréés. Donc je trouve que c'est une avancée majeure en matière de transparence.
Jusqu'où peut aller l'UE en cas d'infraction au DSA ?
Les sanctions peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc en cas de violation grave et répétée, l'Union européenne peut aller jusqu'à restreindre, voire même suspendre l'activité en Europe. Donc le message, il est très clair, les infractions ont un coût réel, tout simplement.
Et vous venez d'écouter Farah Khalek, docteur en intelligence artificielle, au micro de Nadia Bencher. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant à la page sport spéciale Cannes avec Mounir Kamouri. Bonjour Mounir.
Bonjour Nawel.
Il y a beaucoup de choses à dire hein, aujourd'hui encore sur cette Cannes. Et qu'est-ce que l'on doit retenir déjà de ce week-end ?
Oui, effectivement, c'était un week-end très dense. On va dire que la tendance générale, c'est que la Cannes commence vraiment à s'emballer. Des buts, des retournements de situation, des confirmations et aussi quelques nations qui commencent à douter sérieusement. On revient là-dessus dans l'émission avec ce match fou entre le Nigeria et la Tunisie et ces polémiques arbitraires arbitrale, mais aussi entre la Côte d'Ivoire, championne en titre, et le Cameroun, toujours dans la tourmente avec des problèmes internes.
Et justement, Salma Darlaoui sera avec toi dans l'émission ce soir pour en parler de ces problèmes internes avec le Cameroun.
Effectivement, Salma nous proposera un focus sur le Cameroun parce que c'est l'une des sélections attendues, mais aussi la plus instable du tournoi. Entre les tensions internes, l'arrivée tardive du sélectionneur David Pagou, l'ombre de la légende Samuel Eto'o et ce match nul contre la Côte d'Ivoire, elle va nous expliquer clairement ce qui se passe dans cette sélection et pourquoi ça peut leur coûter très cher dans cette CAN.
Et sur le chiffre du jour, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un indice ?
Alors je vais carrément vous donner le chiffre du jour. Ça permettra aux auditeurs et auditrices d'y réfléchir avant l'émission. C'est le nombre 17 et il vient briser une malédiction lors de cette CAN. Un exploit pour une équipe qui relance en même temps les qualifications de son groupe. On donnera plus de détails dans l'émission. Et puis la dernière info avec les scores en direct des deux matchs du jour. L'Angola qui fait face à l'Égypte pour l'instant 0-0 et le Zimbabwe est en train de perdre 1-0 face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud.
Merci beaucoup Mounir pour toutes ces informations et on vous retrouve ce soir à 18h20 pour l'émission Sport sans frontières spéciale CAN. Et d'ici là, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.